Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre tour de l'actualité de la semaine. Je rappelle que vous pouvez podcaster cette émission sur le site de la radio RFI.fr. Il sera évidemment question des grands titres de l'actualité africaine après le flash et de football aussi tout au long de cette émission avec notre invité, le journaliste et écrivain Vincent Duluc, spécialiste de football au quotidien de référence en matière de sport en France, L'Équipe, et auteur de Au cœur des Bleus, un livre sur les sélectionneur de l'équipe de France. Bonjour Vincent Duluc.
Bonjour.
Alors l'Euro a commencé hier soir, évidemment. Et vous, vous écrivez dans ce livre Au cœur des Bleus, qui va être au cœur de notre conversation, que vous en êtes à votre 300e match avec les Bleus.
C'est à peu près ça, oui. Avec un camarade de Ouest-France qui est à peu près égal en ancienneté, on s'est amusé l'autre jour à regarder un peu sur une liste les matchs qu'on avait fait, qu'on n'avait pas fait. Je crois que ça fait à peu près 300. L'équipe de France en ayant disputé à peu près 850 depuis le début de son histoire, ça commence à représenter un certain pan. Alors l'époque s'est accélérée. Jusqu'au milieu des années 80, il y avait 5-6 matchs par an. Aujourd'hui, on peut arriver à 12, 15, 18, même les années de phase finale. Mais c'est vrai que c'est là qu'on voit que le temps passe.
Oui, le temps passe trop vite, évidemment. Et ça, c'est une véritable passion pour vous, le football, hein ?
Je m'en suis jamais détourné, c'est vrai. J'ai toujours été assez monomaniaque. Alors j'ai touché à d'autres sports. J'ai fait des Jeux Olympiques. J'ai adoré le rugby. J'ai adoré l'athlétisme. Mais je suis quand même tombé un peu dedans quand j'étais petit. Et je me suis jamais lassé de ces voyages. Je me suis jamais lassé de ces matchs. Je continue d'aller voir peut-être 80 à 90 matchs par an dans les stades. Et j'ai toujours la même excitation juste avant, en me disant que je vais peut-être voir un match fantastique. Alors 60 fois sur 80, c'est pas le cas, mais de temps en temps, je pense à un match à Liverpool il y a un mois où j'étais à Liverpool-Dortmund. Eh bien, la soirée est tellement fantastique qu'on en reprend pour 10 ans et voilà, là je suis reparti pour 10 ans.
Il n'y a pas de lassitude du tout.
Non, il peut y avoir une lassitude qui peut être liée au voyage quand on vieillit un peu et qu'on a un avion à 6 heures du matin. Mais globalement, non, je continue à ne pas vouloir échanger cette vie contre une autre.
Ouais. Alors, tout en parlant en foot, Vincent, nous allons, comme d'habitude, effectuer un tour du monde de l'actualité de ces 7 derniers jours. Mais d'abord, donc, l'Euro, qui a commencé hier soir dans un curieux climat. Alexis Bedu.
Les deep plays d'Égypte s'abattraient sur la France. La presse anglaise s'en donnait à cœur joie il y a quelques jours, comparant les difficultés de l'Hexagone au récit biblique. Alors oui, la contestation de la loi travail n'est pas terminée. Les grèves sont maintenues dans certaines raffineries et dans les transports. Une nouvelle manifestation est d'ailleurs prévue mardi prochain. Le printemps pluvieux a fait déborder les fleuves et les rivières, des inondations qui ont sinistré 470 000 personnes. Depuis novembre dernier, la menace d'attentat terroriste est toujours présente dans les esprits. Une batterie de mesures sans précédent a été prise pour sécuriser la compétition. Et puis moins grave, mais tout de même, il y a eu les blessures des joueurs de l'équipe de France. Raphaël Varane, Jérémy Mathieu, Lassana Diarra, n'en jetez plus, Super Victor, sauve-nous. À croire qu'il n'y a plus que le petit garçon mascotte de cet Euro 2016 qui a le sourire. Mais il y a des raisons d'espérer. Non, la France n'est pas indéfendable. Voyez donc, le soleil d'été reprend doucement ses droits et la morosité ambiante pourrait peu à peu s'estomper. Surtout si les Bleus sont performants sur le terrain.
Alors on l'espère évidemment, c'est un drôle de climat que connaît la France aujourd'hui pour ce début de compétition.
Oui, c'est un drôle de climat. Alors on voudrait que le foot fasse oublier à la France tout ça, mais je ne suis pas sûr que le foot ait les épaules assez larges pour pouvoir réussir à ça. Et puis après tout, si l'humeur du pays dépend d'une victoire de l'équipe de France, c'est qu'on est à notre tour une de ces républiques dont on se moquait jadis. Voilà. Donc je ne suis pas certain que ça soit que cette responsabilité-là soit légitime et soit juste. Mais en revanche, je suis effectivement certain que ça aura des conséquences. Mais pour l'instant, c'est vrai que l'atmosphère est d'autant plus étrange que autant en 1998, c'était la France qui organisait la Coupe du Monde, autant cette fois, faut quand même dire les choses, sont plutôt les Suisses allemands.
C'est-à-dire que c'est l'UEFA, en fait.
C'est l'UEFA qui loue les stades, qui installe son Barnum, qui ne laisse que 5 à 10% de l'organisation à la France. Et c'est vrai que quand on va au Stade de France, on a un peu l'impression d'être tout juste toléré.
Ah oui, à ce moment-là.
Dans un endroit familier.
C'est la première fois que vous ressentez cette
chose-là?
Oui,
c'est la première fois que je le ressens. Alors évidemment, je le ressentais en Pologne et en Ukraine il y a 4 ans, mais c'était un peu plus naturel. Au Stade de France, j'en suis sorti un peu plus décontenancé.
Alors on espère qu'il y aura un magnifique vertige, pour reprendre le titre de votre papier d'hier. On l'espère vraiment.
Mais oui, on l'espère. On a quand même besoin d'un petit peu de bonheur. Ça nous fera pas de mal. Et accessoirement, on a quand même besoin de se retrouver autour d'une équipe qui puisse représenter, une certaine manière de vivre ensemble. Parce que même si le slogan Black Blomber a été complètement détourné et était même malheureux, et c'était une très mauvaise idée. À partir du moment où on a dit Black Blomber, on a commencé à compter finalement. Et il vaudrait mieux juste se sentir représenté par l'équipe de France et par la France en général que par plusieurs parties différentes. Parce que ça crée des revendications. Mais au-delà de ça, voilà, si on pouvait passer un mois joyeux, ça ne nous ferait pas de mal.
Vincent Duluc, donc au cœur des Bleus, c'est le portrait. Mais c'est plus qu'un portrait de 15 sélectionneurs et un duo de sélectionneurs depuis 1964. D'ailleurs, vous soulignez assez ironiquement qu'il y a plus de stabilité dans le monde du foot que dans le monde de la politique.
Mais oui, parce que je me suis intéressé effectivement au parallèle entre ces deux personnages d'État, certes, qui ont des responsabilités incomparables. Je ne fais pas de parallèle jusqu'aux responsabilités. Mais des premiers ministres et des sélectionneurs. Et effectivement, il y a eu un peu plus de premiers ministres que de sélectionneurs.
Vous dites 15 sélectionneurs. Unique et un duo depuis 64, quand la 5e République a usé 20 premiers ministres dans la même période.
Oui, voilà, c'est ça. Mais on retrouve à peu près le même mécanisme dans l'état de grâce, dans la manière d'exercer le pouvoir, dans les alliances, dans les trahisons, dans la paranoïa de fin de règne, dans la chute, dans la difficulté de vivre l'après. Finalement, autant qu'au cœur de Bleu, c'était un peu. J'essayais d'être au plus près du cœur des sélectionneurs, du cœur de leur vie et de l'impossibilité pour eux, comme les premiers ministres, de vivre une vie normale après l'équipe de France.
Alors, en tant que journaliste à l'équipe, vous avez une influence considérable sur l'équipe de France. Vous rappelez d'ailleurs que, pas vous forcément, quoique, mais votre journal, vous rappelez que pendant un moment, d'ailleurs, le sélectionneur pouvait être aussi un journaliste de l'équipe. Vous citez Gabriel Annaud.
Absolument.
Qui faisait ses propres articles, non? C'est ça?
C'est ça. C'est-à-dire qu'après la guerre, Gabriel Annaud était le leader de la rubrique football de l'équipe, qui est le poste que j'occupe aujourd'hui. Mais il avait beaucoup plus de pouvoir que moi. Il avait fondé les stages de formation d'entraîneur, et il était le directeur technique de l'équipe de France, son entraîneur, son sélectionneur. Et donc c'est lui qui sélectionnait l'équipe de France, et après une défaite contre l'Espagne en 49, il avait écrit dans l'équipe un grand papier général, l'un de nous pense que le directeur doit s'en aller, et le lendemain il avait présenté sa démission.
Donc il avait appelé à sa propre démission, voilà. Un peu schizophrène comme position, mais c'est un drôle de boulot quand même, ce travail de sélectionneur. On dit sélectionneur. Hein.
Exactement, on fait la différence entre entraîneur qui s'applique au club, qui s'applique au travail quotidien sur le terrain, et sélectionneur qui s'applique à l'idée de prendre les meilleurs de plusieurs équipes pour en faire quelque chose qui puisse ressembler à son tour à une équipe, à une sélection. Et c'est très différent parce qu'il y a, dans un club, vous avez le poids d'une culture locale, mais quand vous êtes sélectionneur, vous avez le poids du pays, vous êtes un personnage d'État pendant un moment, donc, mais ce poids-là finit soit par vous submerger, soit par vous rendre fou, globalement.
Oui, alors c'est une comédie du pouvoir que vous décrivez aussi. On parle souvent de la comédie du pouvoir en politique, mais là, c'est aussi une comédie du pouvoir. On voit les influences, les lobbies, c'est rude.
C'est ça. Ce qui est étrange, c'est que c'est assez rude, alors que le fond du problème est très différent. Quand vous êtes Premier ministre, vous gérez un pays. Et quand vous êtes sélectionneur, tout ce qu'on vous demande, c'est de prendre les meilleurs joueurs possibles pour le match du mois suivant. C'est quand même incomparable, et malgré tout, ça crée des polémiques, ça crée des buzz. La moindre phrase de travers, comme Laurent Blanc sur les quotas, qui était une phrase volée, mais une phrase néanmoins scandaleuse, lui a fait donner le sentiment, comme il le dit dans le livre, d'avoir été dans le tambour d'une machine à laver. Et effectivement, il a fallu qu'il vienne s'excuser au journal de 20h à TF1. Donc voilà, tout prend des proportions invraisemblables, et on est dans une logique aujourd'hui, dans une ère de buzz qui... comme on sait, part sur un éclair et s'arrête à la vitesse d'un train de marchandises.
D'autant, et vous le rappelez dès le début du livre, Vincent Duluc, qu'il y a 60 millions de sélectionneurs.
C'est ça, et on l'a revu.
Chacun a son idée.
Et on l'a revu avant l'Euro avec la polémique entourant Ben Arfa notamment.
Une semaine d'actualité. Partons pour les États-Unis, Vincent Deluc, après la victoire d'Hillary Clinton aux primaires démocrates en Californie. Conséquence, elle sera donc la candidate démocrate face à Donald Trump à Los Angeles mardi, Tessa Gromman.
Un bureau de vote dans un quartier aisé de Los Angeles. Ici comme ailleurs, les électeurs votent majoritairement démocrates, comme Josh, conscient que le choix des candidats à la présidentielle est déjà fait. Malgré cela, il a tenu à venir voter.
C'est plutôt symbolique, surtout ici en Californie, où il y a beaucoup d'habitants. Plus il y en a qui votent, mieux c'est.
Un peu plus loin, dans le centre-ville de Los Angeles, un rassemblement est organisé par une radio locale pour encourager les gens à voter. Tom, agent immobilier retraité, est venu soutenir le mouvement. Il a voté, mais il regrette amèrement l'annonce de la victoire d'Hillary Clinton la veille du scrutin.
Pour la première fois depuis 10 ans, la Californie avait une primaire qui pouvait compter. Et que le vent qui soufflait dans les voiles soit stoppé la veille au soir, ça m'a vraiment déçu. Plus que jamais, je voulais déposer mon bulletin.
Un peu plus loin, dans un bureau de vote situé en plein quartier de logements sociaux, Harriet, qui accueille les électeurs, constate une évidence.
Nous avons beaucoup d'électeurs démocrates qui viennent voter.
Beaucoup de jeunes et d'hispaniques aussi, très remontés contre Donald Trump. Quant à savoir pour lequel des deux candidats démocrates ils votent,
Bernie Sanders.
Hillary. I voted for Bernie Sanders.
I voted for Bernie Sanders.
Alors écoutons Hillary Clinton qui a donc reçu jeudi le soutien de Barack Obama.
Thanks to you, we've reached.
Grâce à vous, nous avons franchi une étape importante. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une femme remportera l'investiture de l'un des grands partis.
Et écoutons aussi la réaction d'un autre candidat, le candidat républicain Donald Trump, après cette victoire donc d'Hillary Clinton.
Je comprends mes responsabilités en étant votre champion et je ne vous laisserai jamais tomber. À tous les électeurs de Bernie Sanders qui sont perdus dans le froid à cause d'un système corrompu, nous vous accueillons les bras ouverts. Les Clinton ont fait de la politique de l'enrichissement personnel un art à leur profit. Ils ont gagné des centaines de millions de dollars en vendant des accès privilégiés, des faveurs, des contrats gouvernementaux. Je dis bien des centaines de millions de dollars. Ce pays est ruiné. Nos infrastructures sont un désastre. Nos écoles ont échoué. Les crimes sont en augmentation. Les gens ont peur. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est Hillary Clinton à la Maison Blanche comme un prolongement du désastre Obama.
Avant de reparler football, Vincent Duluc, il nous faut nous arrêter cette fois en Turquie. Une attaque à la voiture piégée a visé mardi matin la police dans un quartier historique d'Istanbul, faisant 11 morts, dont 7 policiers, dans un pays déjà frappé par une série d'attentats attribués aux djihadistes et aux rebelles kurdes. Correspondance d'Alexandre Billette.
C'est un symbole de l'État turc qui a été visé, un mode opératoire qui ne ressemble donc pas à celui utilisé par les militants de l'État islamique, qui ont plutôt perpétré des attentats kamikazes au milieu de la foule ces derniers mois. En revanche, une méthode qui rappelle l'attentat à Ankara en février qui avait fait 30 morts et qui visait justement un convoi de militaires. En mars également, attentat contre un bus à Ankara qui avait fait plus de 30 morts pour la plupart des civils. Mais des policiers ou des militaires étaient visés selon les revendications ultérieures d'un groupuscule séparatiste kurde, les Faucons de la Liberté. L'attentat d'aujourd'hui semble donc appartenir à ce type d'attaque. Chose certaine, c'est l'hypothèse que privilégient les autorités turques, et tout particulièrement le président Recep Tayyip Erdogan, qui a déjà attribué la paternité de l'attaque de ce matin au mouvement séparatiste kurde.
Et 5 personnes ont été tuées, 51 autres blessées mercredi dans un attentat à la voiture piégée, cette fois contre un commissariat dans le sud-est, en majorité kurde de la Turquie. Notez aussi que 2 Palestiniens ont semé la terreur mercredi soir à Tel Aviv en ouvrant le feu sans discrimination sur des clients attablés dans un quartier animé de restaurants et de bars, tuant 4 d'entre eux et en blessant 5 autres.
Une semaine d'actualité.
Et ainsi va l'actualité, Vincent, qu'on peut suivre dans tous nos journaux toutes les demi-heures, l'actualité tragique. C'est pour ça que ça fait du bien aussi de parler de football, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même une distraction. Alors dans ce livre, Au cœur des Bleus, vous nous expliquez très bien aussi qu'il y a eu jusqu'ici, comme entraîneur, et il n'y a pas de raison que ça change, soit des cadres du monde du football, enfin de la direction technique nationale, c'est ça, soit des joueurs. On se souvient par exemple de Michel Platini ou de Laurent Blanc, ou de Didier Deschamps aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, effectivement, Il y a parfois des vrais entraîneurs, des entraîneurs historiques, et parfois des entraîneurs plus récents qui sont des anciens grands joueurs. Michel Platini est l'exemple typique du recours à un sauveur sur son nom plutôt que sur son parcours et plutôt que sur ses goûts. Il est devenu entraîneur, enfin il est devenu sélectionneur entre 1989 et 92 sans en avoir le goût d'ailleurs. Il a arrêté après l'Euro 92 et il n'a plus jamais occupé une fonction de terrain. Et donc lui, voilà, c'est lui comptait sur son instinct, sur nous on savait un peu, on connaissait un peu quand même la théorie de l'impossibilité, de la pédagogie du génie. On savait qu'il aurait du mal à diriger des joueurs qui lui ressemblent aussi peu. Et c'est un peu ce qui a fini par le rattraper sur la fin. Mais aujourd'hui, effectivement, avec Didier Deschamps, il y a quand même une bonne, on va dire, il y a un bon équilibre entre quelqu'un qui a un parcours d'entraîneur, parce qu'il a quand même emmené Monaco en finale de la Ligue des Champions en 2004. Il a été entraîneur de club pendant 12 ans avant de devenir sélectionneur. Il était capitaine de l'équipe de France. Lui, pour le coup, il concentrait un peu toutes les qualités et tous les courants.
Oui, ouais. Mais en tout cas, c'est le choix est parfois curieux, le choix du sélectionneur. Enfin, pas le choix de son équipe, mais la nomination du sélectionneur. Il y a des querelles, des jalousies, c'est la comédie du pouvoir, encore une fois.
C'est complètement la comédie du pouvoir. Parfois, ça repose sur un hasard, sur quelqu'un qui est libre au bon moment, alors que personne ne l'attend. Je pense que parfois, le sélectionneur, ça donne l'impression un peu de remaniement ministériel quand il y a des coups de fil un peu à tout le monde, qu'on appelle 7 ou 8 personnes pour le même poste et finalement, il y en a un qui est d'accord. Bon, là, c'est pas le cas parce que tous les entraîneurs de France en ont envie. Mais les alliances et les trahisons qui mènent aux nominations sont parfois assez étonnantes. Surtout qu'on revoit toujours les mêmes personnes arriver pendant longtemps. Par exemple, Michel Platini a eu une vraie influence pendant près de 20 ans. Et même s'il n'a plus voulu être sélectionneur après 92, c'était un peu ni avec lui ni sans lui. Il fallait toujours être adoubé par Platoche, comme l'appellent les autres.
Sachant, Vincent Duluc, que ces joueurs de génie, enfin de cette classe-là, ont aussi une influence dans la composition de l'équipe quand ils sont joueurs.
Absolument. C'est pour partie un fantasme, parce qu'évidemment, c'est pas le joueur qui
finalement, les sélectionneurs s'en défendent.
L'équipe et les sélectionneurs s'en défendent. Mais Michel Hidalgo s'en défend pas tant que ça, et moi je sais, parce que plusieurs joueurs m'ont raconté les scènes, qu'il lui arrivait d'aller voir et Michel Platini, et Henri Michel, et Marius Trésor, pour leur dire, bon les gars, vous en pensez quoi? Et derrière, on met qui? Arrière gauche, on met qui? Voilà, pour lui, ça faisait partie du dialogue. Après, je me souviens que quand on posait la question à Bernard Lacombe pendant l'Euro 84 pour savoir s'il allait jouer, il répondait « Demande à Platini ».
Ah oui.
Voilà. Donc il y a beaucoup de joueurs qui ont été écartés de l'équipe de France 98 et qui l'ont reproché à Deschamps. D'ailleurs, entre 98 et 2000, quand Deschamps et Blanc tenaient vraiment l'équipe, ça fonctionnait un peu comme cooptation, plus que par sélection. Et la cooptation, évidemment, venait de l'intérieur.
Alors, il faut parler maintenant du sujet qui fâche. D'ailleurs, vous êtes fâché. Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, donc le sélectionneur de l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde, faut-il le rappeler, en 1998, et grosse fâcherie avec l'équipe.
Mais en fait, c'est lui qui est fâché.
Nous, mais on est à mort presque. Hein.
Oui, on n'est jamais fâché que ça. Lui, effectivement, n'a jamais reparlé parce que je pense qu'il y avait un lien affectif d'abord de lecteur qui remontait chez lui à l'adolescence et à l'enfance avec l'équipe. Il avait finalement grandi, y compris dans le métier, dans ce lien avec l'équipe. Aujourd'hui, au niveau médiatique, le football est tellement couvert par différents médias que ce lien-là est un peu moins exclusif, mais à l'époque, il l'était. Donc je pense qu'il s'est senti comme trahi par la famille.
Parce que vous l'aviez critiqué.
Parce qu'on l'avait critiqué entre 1994 et 1997. Mais très franchement, par rapport à ce que les sélectionneurs suivants ont pris de notre part et de la part de celle des autres, c'était trois fois rien. D'autant qu'en 98, on n'était pas les seuls à avoir écrit ça, mais on est les seuls à qui il y reprochait. Et justement, ça dessine quand même quelque chose du lien et de l'importance qu'il mettait dans ce journal. Donc c'est vrai qu'il nous a plus parlé depuis. Aujourd'hui, il parle plus à personne. Donc je suis effectivement pas allé sonner à sa porte parce que c'était complètement inutile. Mais j'ai néanmoins du respect pour ce qu'il a fait et du respect pour son parcours. Voilà, après je continue à dire que sa fâcherie est disproportionnée.
Ouais. Vincent Duluc, nous allons faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde et on se retrouve dans 3 minutes pour continuer à parler évidemment de foot, de football. À tout de suite.
Jusqu'au 10 juin.
Merci pour toutes ces informations. Retour à notre revue de 7 jours d'événements avec la rédaction et notre invité Vincent Duluc du journal L'Équipe et auteur d'un livre passionnant qui s'intitule « Au cœur des Bleus » aux éditions Stock.
Une semaine d'actualité.
Restons en France avant de nous diriger en Afrique, Vincent Deluc, dans quelques minutes. Il y a une semaine, la région centre et une partie de la région parisienne étaient affectées par des inondations qui ont fait de gros dégâts, qu'il s'agit de chiffrer désormais des milliards d'euros. Il faut signaler aussi la poursuite aujourd'hui du mouvement de grève de la CGT, notamment à la SNCF, qui peut perturber l'euro. Et reparlons justement de l'euro 2016 maintenant, mais sous un angle sécuritaire avec les fameuses fan zones, ces endroits où les supporters pourront donc se retrouver en toute sécurité, en principe. Reportage à Paris de Laurence Théo.
Il y en a qui ne savent pas ce que c'est.
Alors, les fan zones, c'est quoi ?
D'autres qui ne s'y intéressent pas, comme cette dame d'un certain âge, cheveux blancs piqués d'épingles et relevés en chignon.
Le foot, c'est pas ma tasse de thé. J'ai plus l'âge de me passionner pour ça et je n'ai, hélas, plus tellement la force d'y aller.
Abou porte un bleu de travail. Il décharge une camionnette. Il sera supporter dans les fan zones.
Oui, j'irai supporter les équipes dans les fan zones. Nous, en fait, on est en déplacement un petit peu dans toute la France. Et justement, je vais essayer de repérer les lieux pour pouvoir assister à ces matchs-là. Les matchs de foot, de toute manière, pour moi, c'est une activité un petit peu conviviale, collective. Et c'est beaucoup mieux de faire ça à plusieurs que tout seul dans son coin.
Vous ne craignez pas donc les mouvements de foule, les attentats ?
Non, absolument pas. Si on commence à avoir peur de ça, on reste chez soi et puis on sort plus, quoi.
Mais pour cet homme en costume, cravate desserrée sur chemise blanche, pas question de s'y aventurer.
Je crains pour la sécurité par rapport aux fan zones, parce que les attroupements et tout ça, c'est vraiment pas une bonne idée, quoi. On est en état d'urgence encore, donc je comprends pas.
Vous craignez les attentats ?
Ben oui, là, il y a vraiment l'occasion, c'est presque de la provocation, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui aurait dû être annulé.
La fan zone de Paris pourra accueillir jusqu'à 92 000 spectateurs.
Vincent Deluc, je vous vois déjà réagir. Je vous propose, avant de vous écouter, de faire un tour de France des 10 villes qui vont organiser des matchs pendant cet Euro 2016. Quelques petites cartes postales, en quelque sorte. Emmanuel Rebaud.
Focus sur Saint-Denis qui ouvre le bal. La ville a parfois mauvaise réputation, elle est d'ailleurs plutôt méconnue des Parisiens à part pour son stade. Saint-Denis, c'est pourtant un petit bijou historique qui vaut plus qu'un détour. Au nord, à Lille et à Lens, la fête, ça fait partie d'un mode de vie. Alors, place de la Casquette à Lille, on imagine déjà que les brasseries ont fait des stocks en prévision. On dit parfois que Lyon a trois fleuves, le Rhône, la Saône et le vin du Beaujolais. C'est certainement dans les traditionnels bouchons que les supporters suivront les matchs. La ville de Saint-Étienne est peu connue de la plupart des Français. C'est pourtant une ville culturelle et dynamique, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO comme ville du design. Et maintenant, direction le sud, Marseille et le ballon rond, c'est une histoire d'amour qu'on ne présente plus. Et petit clin d'œil à Nice, où à coup sûr, les équipes chanceuses qui vont jouer dans le nouveau stade Allianz bénéficieront du microclimat azuréen. C'est à Bordeaux que l'on trouvera la plus grande fan zone. Et pendant un mois, Toulouse, la ville du rugby, sera celle du football. En bref, 4 rencontres minimum auront lieu dans chaque ville.
Suite d'une semaine d'actualité spéciale football en compagnie de notre invité Vincent Deluc. Alors je vous laisse réagir à ce que vous avez entendu sur ces gens qui parlaient des fan zones. C'est assez, là aussi, je reviens à l'ambiance générale, c'est assez curieux quand même ces fan zones. C'est-à-dire, vous disiez que déjà avec l'UEFA on était dans une sorte de bulle, et là c'est une autre bulle en fait.
C'est une autre bulle, mais pour le coup c'est une bulle française, c'est une bulle effectivement assumée par les pouvoirs publics et assumée par les villes. C'est une bulle qui est sécurisée. Alors évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais théoriquement, dans les stades et dans les fan zones, les gens sont plus en sécurité que dans le métro. Que voilà. Donc le discours alarmiste, évidemment qu'il faut faire attention, mais le discours alarmiste est, pour moi, je peux le comprendre de quelqu'un qui est dans la rue, qui a peur. Les gens ont tout à fait le droit d'avoir peur. Je comprends moins quand j'entends David Douillet hier ou avant-hier disant qu'il fallait fermer toutes les fan zones. En même temps, il veut défendre la candidature de Paris Vélo Olympique. Tout ça me paraît contradictoire.
Alors Vincent Deluc, vous avez entendu le papier d'Emmanuel Rebaud qui parlait des villes qui vont accueillir des matchs. Parmi ces villes, il y a Saint-Étienne. Alors ça, il faut dire un mot du livre qui a été reconnu Un printemps en 76 chez Stock aussi, qui est votre éditeur fétiche, semble-t-il, qui est un livre c'est une peinture sociale en fait de Saint-Étienne dans les années 76. Et évidemment, 76, c'est la finale de Glasgow, c'est les buts carrés, la défaite. En fait, c'est toute une époque, c'est la renaissance en quelque sorte, c'est la naissance du football français.
En fait, il y a plusieurs choses. Sur le plan du foot, effectivement, 76 est la naissance quand Saint-Etienne bat Kiev, qui pour moi est le match originel où tout a commencé.
On s'en souvient tous,
le 17 mars 76. Ça lance le cercle vertueux du foot français. à qui il n'était rien arrivé de bien depuis les anciens de Suède en 58. D'ailleurs, deux semaines plus tard, Michel Platini a sa première sélection en équipe de France. Il y a comme ça une concomitance qui va créer la génération Platini les grandes années. Sur un autre plan, ce qui m'a intéressé en dehors du côté récit peut-être initiatique et avec un peu de nostalgie, ce qui m'a intéressé...
Beaucoup
de nostalgie.
Beaucoup, si vous le dites.
Ce qui m'a intéressé, c'est, en dehors de l'époque, c'est ce paradoxe à Saint-Etienne, d'une ville qui était en plein déclin. Les mines allaient fermer, étaient en train de fermer. Creuse-Loire débauchait. J'avais des copains qui me racontaient que pour la première fois, c'est la première fois qu'on voyait ça, les gens quittaient l'école en cours d'année parce que les pères avaient trouvé du boulot ailleurs, etc. Et donc il y avait ce contraste-là avec une ville tout d'un coup qui arrivait à la lumière. Donc il y a beaucoup de choses et surtout sur le lien entre les. Je pense qu'il y a peu de clubs en dehors de Liverpool où il y a un tel lien entre les supporters et le club. C'est-à-dire que c'était les mineurs, c'était les ouvriers qui étaient dans les tribunes et d'ailleurs l'insulte, c'était jamais trop payé, c'était jamais feignant, c'était à la mine.
Ouais. Et donc c'est la peinture d'une ville, d'une époque, et c'est aussi la peinture d'une époque du football révolue, c'est-à-dire les rapports avec les joueurs étaient différents, les joueurs étaient proches de la population, enfin il y avait tout un contexte qu'on regrette un peu aujourd'hui.
C'est vrai, mais je pense que dans tous les secteurs de la vie, c'est un peu la même chose. Par exemple, effectivement, je me suis plongé sur leur salaire et j'ai constaté que les footballeurs et les grands patrons de l'époque gagnaient entre 30 et 40 fois le SMIC, ce qui était déjà énorme. Mais aujourd'hui, et les footballeurs et les grands patrons, ils gagnent à peu près 400 fois le SMIC. Mais tous les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une... Il y a vraiment un fossé qui s'est créé entre la vraie vie et l'autre.
Je ne peux pas ne pas vous interroger, Vincent, sur l'interview, les deux pages dans Le Monde cette semaine de Zlatan, qui, avec ce titre, « Je peux rendre populaire Hollande si je veux ». Ça vous étonne d'ailleurs que dans Le Monde, il y ait deux pages d'interview de Zlatan Ibrahimovic, le jour même d'ailleurs où il sortait sa collection de vêtements, ce qui peut paraître aussi un peu curieux.
Ça m'étonne, mais il faut être fair play et reconnaître que tout le monde aurait bien aimé la voir sur cette distance.
Ah oui ?
Et comme ça, oui, je pense qu'on aurait été ravis, nous aussi, de la voir. Après, Zlatan Ibrahimovic, je pense qu'il a un ego très supérieur à sa qualité de joueur. À sa qualité de joueur.
Ah oui.
Le personnage chez lui est beaucoup plus fort que le joueur. C'est un grand joueur, mais c'est un joueur qui a seulement un palmarès national. Ça sera jamais un des meilleurs joueurs du monde. Il aura jamais le cinquième du palmarès de Messi ou de Ronaldo ou des plus grands de l'histoire du foot.
Oui. En tout cas, il se prend très au sérieux. Alors, on ne sait pas si c'est du cas, comme vous le disiez, du quatrième degré, ou « je peux rendre populaire Hollande si je veux ».
À ce niveau-là, si c'était du premier degré, ça serait décevant quand même.
Alors, on va reparler un instant avant de partir pour l'Afrique de ces sélectionneurs de l'équipe de France qui ont eu des mandats plus ou moins longs. Hein. Le plus court, c'est celui d'un grand joueur de l'époque, Just Fontaine. Il a fait quoi, deux matchs ?
Il a fait deux matchs. Il avait été poussé en 1967 par un dirigeant qui avait eu de l'influence pendant une période très courte, mais qui était Jean-Baptiste Doumingue, le célèbre milliardaire rouge qui a fait fortune, qui est de Toulousain, qui a fait fortune en important des tracteurs tchécoslovaques, dont on trouve encore des carcasses dans les fermes aujourd'hui. Et donc, Just Fontaine avait été poussé pendant deux matchs, puis après poussé dehors. Et celui qui est resté le plus longtemps, c'est évidemment Michel Hidalgo, entre 1976 et 1984. Et celui qui a disputé le plus de matchs, c'est Raymond Domenech. Et évidemment, tout le monde va dire qu'il en a disputé un peu trop.
Oui, ça s'est mal terminé pour lui. Enfin, pour son équipe.
Ça s'est mal terminé. C'est sans doute le sélectionneur avec lequel j'ai eu le plus de proximité parce que je l'ai connu quand on était à Lyon, moi au Progrès, lui entraîneur de Lyon à la fin des années 80. Je l'ai vraiment connu de près. J'ai eu la chance de lire son journal de bord personnel pendant toutes ces années de sélectionneur. Et c'est assez fascinant. Du coup, ça pousse à l'empathie, je reconnais. Et surtout vers la fin, vers les pages de la fin, vers les derniers mois, on voit ligne après ligne venir l'usure, la perte de la lucidité et le combat de trop.
Oui, c'est un personnage sans doute le plus détesté à l'époque en France.
Sans doute, oui. Mais c'est peut-être un des sélectionneurs les plus profonds. Je pense qu'il a. Oui, il devait être un peu trop cérébral peut-être pour le poste à un moment.
Une semaine d'actualité.
Et partons maintenant, Vincent, pour l'Afrique, terre de football, s'il en est, vous le savez, c'est pas vous que je vais l'apprendre. Et d'abord, là, on va pas parler de football, on pourra parler du football en Afrique, mais en tout cas, c'est un continent de football. Là, nous allons parler de terrorisme, et d'abord, la lutte contre le terrorisme de Boko Haram, après l'attaque de vendredi dernier à Bosso, au Niger. Et le Niger qui a reçu ces derniers jours le renfort de troupes tchadiennes, Laura Martel.
Blindés, lance-roquettes, mitrailleuses 12-7, ce sont quelques 2000 militaires tchadiens lourdement armés qui sont mobilisés. Des hommes aguerris qui connaissent bien la zone du lac Tchad et ont été à plusieurs reprises le fer de lance des offensives contre Boko Haram, surtout l'an dernier. En janvier 2015, les militaires tchadiens étaient d'abord intervenus dans l'extrême nord du Cameroun à la demande du président Biya. Le mois suivant, c'est justement depuis la région de Bosso, Niger, que les forces tchadiennes mènent des actions contre Boko Haram au Nigeria, dans leur fief de l'état de Borno et inflige de lourdes pertes aux insurgés. Les militaires tchadiens ont donc l'habitude de collaborer avec leurs homologues nigériens. C'est d'ailleurs ensemble que les deux forces lancent en mars 2015 depuis le Niger une vaste offensive dans la zone frontalière côté Nigeria. Une opération qui leur permet de reprendre plusieurs villes nigérianes alors occupées par Boko Haram comme Damasak, où les militaires découvrent un charnier, puis Malam Fatori situé juste en face de Bosso. Durant cette période, plusieurs attaques des insurgés sur Bosso sont d'ailleurs repoussé. Aujourd'hui, la force mixte des pays du lac Tchad censée lutter contre Boko Haram n'étant toujours pas opérationnelle plus d'un an après sa création, c'est à nouveau au Tchad que le Niger fait appel.
Et ces attaques provoquent des mouvements de population qui fuient les zones de violence à la frontière. Anthony Latier.
Difficile pour les organisations humanitaires de répondre immédiatement aux besoins des déplacés. Les mouvements de population sont toujours en cours. De nombreuses personnes sont en brousse ou ne sont pas fixées. Après l'attaque de Bosso vendredi, la plupart des habitants ont pris la fuite vers Toumour. Mais comme là-bas aussi la sécurité est précaire, ils ont continué en direction de Diffa. Il y a donc beaucoup de monde sur les routes et tous manquent d'eau et de nourriture. Pour les vieillards et pour les enfants, c'est dramatique, témoigne un habitant de Bosso qui a réussi à rejoindre Diffa. Selon plusieurs organisations, ces nouveaux déplacements aggravent une situation déjà très préoccupante dans une région qui compte officiellement plus de 240 000 déplacés. À Diffa, la grande ville de la région, la situation est calme, mais des gens commencent à partir. Les réservations de bus sont complètes pour les prochains jours, affirme un journaliste local. Il faut dire aussi que les vacances ont débuté ce week-end et de nombreux fonctionnaires de Diffa préfèrent rentrer chez eux ou éloigner leur famille quelque temps. De leur côté, les organisations humanitaires ont replié la plupart de leurs employés dans cette ville.
Sept jours en Afrique.
Partons maintenant pour Genève, où des enquêteurs de l'ONU ont accusé mercredi l'Érythrée de crimes contre l'humanité à grande échelle. Ces enquêteurs recommandent la saisine de la Cour pénale internationale. Léonard Vincent.
L'année dernière, leur premier rapport avait déjà fait beaucoup de bruit. En se basant sur des centaines de témoignages réunis sur 500 pages, les enquêteurs de l'ONU avaient décrit les sévices commis par l'un des gouvernements les plus secrets du monde, une société totalement sous contrôle, où la violence est routinière, une oppression politique portée à un niveau rare dans le monde d'aujourd'hui. En bref, disait le rapport, une société gouvernée non pas par la loi, mais par la peur. Après sa présentation devant les ambassadeurs, le Conseil des droits de l'homme avait alors mandaté les enquêteurs d'établir deux faits. Si des crimes contre l'humanité étaient bel et bien commis, et qui en était responsable? Ce sont ces conclusions qui ont été présentées hier par la commission d'enquête. Oui, des crimes contre l'humanité ont été commis et continuent de l'être en Érythrée. Et les responsables sont ses dirigeants actuels, a-t-elle conclu. Le président de la commission a fait savoir que ses enquêteurs avaient même établi une liste des responsables gouvernementaux impliqués sans les nommer. Mike Smith a précisé qu'il avait remis cette liste au président du Conseil des droits de l'homme pour le cas où la Cour pénale internationale voulait lancer contre eux une procédure criminelle.
Plusieurs syndicats et organisations de la société civile gabonaise proches de l'opposition ont annoncé jeudi la création d'un mouvement « citoyen » entre guillemets pour permettre l'organisation d'élections législatives et présidentielles transparentes d'ici la fin de l'année. Justement, mardi, notre correspondant à Libreville a parcouru la liste des candidats à cette élection présidentielle.
Casimir Oyemba et son parti de l'Union nationale ont fait durer le suspense.
Casimir Oyemba et son parti l'Union nationale ont fait durer le suspense. Fin mars, le parti avait tenu un congrès ordinaire, mais avait différé la désignation de son candidat. Casimir Oyemba complète donc le quartier de la présidentielle du 27 août prochain. Ancien premier ministre, il avait déjà tenté sa chance après la mort d'Omar Bongo en 2009. Malheureusement, à la veille du vote, il avait retiré sa candidature, affirmant qu'il était victime des pressions extérieures. Cette fois-ci, même si c'est le pape qui me le demande, je ne céderai pas, a-t-il déclaré récemment. L'autre poids lourd, c'est Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, tente sa chance pour la première fois. Il a déjà sillonné tout le pays et dispose d'une équipe de campagne assez solide. La nouvelle étoile montante, c'est Ginzou Bandama, ancien mentor d'Ali Bongo. Il a démissionné de l'Assemblée nationale de façon fracassante pour tenter sa chance. Il compte beaucoup de soutien dans l'administration publique et on dit de lui qu'il est le candidat de la France. Tous ces anciens cadres du PDG, le parti au pouvoir, vont affronter Ali Bongo. Le président sortant brigue un second septennat. Il dispose de beaucoup de leviers pour se faire réélire.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages et pour votre fidélité. Bonjour à Sekou à Bamako, à Mohamed à El Jadida au Maroc. Je salue également Pedro à Bamako, Claudine à Paris, Nathalie à Orléans, Annie à Arras, toute auditrice fidèle de RFI et de l'émission en particulier. Je salue Philippe à Nantes et Issouf à Koudougou au Burkina Faso. Suite d'une semaine d'actualité, nous allons reparler de football avec notre invité Vincent Duluc. Il faut rappeler ou apprendre à nos auditeurs, je pense qu'ils le savent, que des joueurs français, des entraîneurs français ont, de l'équipe de France même ont travaillé ensuite en Afrique.
Oui, il y a toujours eu beaucoup de liens. Mais d'ailleurs, c'est un lien qui est en train de s'équilibrer. Pendant très longtemps, la France a profité des joueurs nés en Afrique pour les intégrer à l'équipe de France sans retour et sans contrepartie. Et aujourd'hui, très clairement, les meilleures équipes africaines sont composées de joueurs nés en France et dont la binationalité permet justement à ces équipes africaines, notamment l'Algérie, d'être désormais une vraie force sportive émergente. Mais du côté des entraîneurs, effectivement, Jules Fontaine a travaillé en Afrique. Henri Michel a fait des Coupes du Monde avec le Maroc et avec le Cameroun. Et Roger Lemaire a été champion d'Afrique avec la Tunisie 4 ans après l'avoir été avec l'équipe de France.
Ouais.
Après avoir été champion d'Europe avec l'équipe de France, évidemment.
Donc ce sont des carrières qui dépassent les frontières. Alors revenons sur ce travail de ces sélectionneurs. Ils dépendent évidemment du talent des joueurs de l'époque où ils sont sélectionneurs. Ça va de soi, mais il faut le préciser aussi. Il y a des équipes qui sont médiocres. Il y a eu des générations, hélas, on en a connu où le joueur n'était pas très, 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 très bon.
C'est ça. Ce qui les sépare des premiers ministres, c'est que leurs résultats sont extrêmement visibles. C'est-à-dire qu'effectivement, on gagne ou on perd un match. Alors que les chiffres du chômage, on peut toujours les interpréter, on peut toujours les détourner, on peut toujours les distordre. Alors que le résultat d'un match, c'est difficile. Mais ce qui les rapproche malgré tout aujourd'hui, c'est quand j'ai l'impression que l'image et que le discours, que la communication comptent presque autant que les résultats. Par exemple, si on compare l'ère actuelle de Didier Deschamps et l'ère précédente de Laurent Blanc, l'ère de Laurent Blanc est passée pour un quasi-échec, alors que ses résultats sont quasi les mêmes. Et ça, je pense que c'est la capacité communicante de Deschamps qui fait la différence.
Dans un milieu où la langue de bois est assez forte.
La langue de bois est un principe dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'effectivement, chez les sélectionneurs, les sélectionneurs ont toujours peur de se mettre en danger. Et donc, ils récitent, c'est vrai, quelque chose de... un discours... Qui est quand même assez cadré. Bon, l'avantage des discours des sélectionneurs par rapport au Premier ministre, c'est qu'ils l'écrivent eux-mêmes quand même. C'est déjà ça.
Alors, je vous cite, au moment de s'avancer vers l'Euro 2016, qui sera l'acmé de son mandat, Didier Deschamps concentre toutes les tendances ici constatées de l'avis d'un sélectionneur de l'équipe de France. La difficulté et les ambiguïtés d'une nomination, la part considérable de la communication et du travail d'image pour influencer la perception du public, c'est ce que vous venez de dire, la dépendance vis-à-vis des grands joueurs, qu'il n'a pas forcément, la nécessité de conquérir le soutien des dirigeants majeurs, le décalage entre sa démarche pragmatique et l'idée de l'équipe de France au dehors. Parce que le sélectionneur doit composer avec la fédération, avec les instances.
Absolument, et parfois le sélectionneur et contre le président de la fédération, ce qui crée des problèmes de pouvoir, ce qui peut
inconfortable.
Arriver, ce qui peut arriver qu'un premier ministre, un président. Mais là, pour le coup, Didier Deschamps, il est pas contre Noël Le Graët, qui est le président de la fédération, il est tout contre. Et c'est vraiment un binôme qui fonctionne bien et qui donne aussi de la force à la manière dont Didier Deschamps veut faire passer sa politique.
Alors, ces derniers jours ont été marqués par une polémique sur le supposé racisme de Didier Deschamps avec des propos de Cantona, des propos de Benzema. Quel est votre regard là-dessus sur ces...
Je pense que c'était d'une stupidité sans nom.
C'était violent en tout cas.
C'était violent. Alors,
pour rappeler de ce dont il s'agit d'ailleurs.
Eric Cantona a dit que Ben Arfa et Benzema n'étaient pas en équipe de France parce qu'ils étaient d'origine maghrébine. Jamel Debbouze a dit qu'il ne se sentait pas représenté du coup par cette équipe de France parce qu'il n'y avait pas de joueurs d'origine maghrébine. Et Karim Benzema a dit qu'il n'était pas en équipe de France parce que Didier Deschamps avait cédé à une partie de la France raciste.
Ça fait beaucoup.
Alors, aucun des trois n'a dit que Deschamps était raciste, mais enfin le buzz a fait l'amalgame et oui. C'est parti là-dessus. Et franchement, il peut avoir beaucoup de défauts, mais là, personne n'a compris, ni ses anciens coéquipiers, ni lui-même. Et surtout, je trouve que c'est... Encore une fois, c'est au nom de défendre une légalité, finalement, on encourage le communautarisme, et ça, c'est dommage. Encore une fois, quand Jamel dit qu'il ne se sent pas représenté... Et moi, je me sens représenté par tout le monde et c'est dommage. Je suis heureux qu'il s'en soit excusé et qu'il ait senti la portée de son propos. Il estimait que les joueurs de banlieue sont pas représentés parce qu'il n'y a pas de beurre. Mais c'est pas... D'abord, que je sache, Adil Rami n'est pas suédois, mais c'est vraiment pas la question. Et surtout, ces trajectoires-là sont représentées par tout le monde. La banlieue est représentée. Moi, j'estime que toute la France est représentée dans cette équipe et dans le football en général et que c'est ça qui compte. Et que si le football va jamais changer la société, parce que c'est pas possible, il aide au moins la société à vivre ensemble, c'est déjà pas mal.
Alors, ce qui frappe à la lecture de votre livre, Vincent Duluc, c'est que c'est le décalage qu'il y a entre l'aspect de plus en plus populaire du foot, en tout cas la couverture de ce sport et tout ce qui tourne autour, en bien ou en moins bien, et la solitude de l'entraîneur. Ce sont des hommes seuls.
Absolument, mais bon, on sait que le pouvoir isole. Et là, pour le coup, effectivement, au départ, ils essaient de trouver des hommes de confiance et puis ensuite on voit bien qu'ils se retirent, qu'ils font plus confiance à personne et que la solitude précède de très très peu la chute.
Ah, quand il s'agit de dresser une liste de 20 joueurs, c'est difficile. Les choix sont parfois cornéliens même.
Les choix sont cornéliens et après effectivement il naît chez eux une espèce de paranoïa qui leur fait même douter des conseils. Ils commencent à estimer qu'on leur donne des conseils pour des mauvaises raisons. Et que ceux qui leur donnent des conseils visent quelque chose, visent à les faire chuter. Donc après, ils ne croient plus personne, ils prennent le contre-pied des conseils, ils n'écoutent plus. Et ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que longtemps après, ils aient eu ce désir un peu d'en parler, d'expliquer ça.
Ils ont envie, effectivement, de parler.
Je pense que le côté choral du livre, finalement, leur a plu. Et pour que ça ait un sens, ils ont senti qu'il fallait qu'ils parlent chacun pour que le message global ait véritablement un sens.
C'est presque une psychothérapie d'ailleurs, parce qu'ils parlent de des angoisses qu'ils ont connues, des pressions, des inimitiés.
Je pense que pour certains c'était important, par exemple pour Laurent Blanc, dont on a repris les meilleures feuilles là dans l'équipe, je pense que le fait de dire cruellement ou trivialement qu'il avait passé deux belles années de merde, je pense que pour lui ça lui a permis quand même un peu de lâcher un peu tout ce qu'il avait sur le cœur depuis 2012 et qu'il n'avait pas dit au fond.
Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui le foot n'est pas devenu trop populaire en fait ? C'est pas populaire, mais en tout cas est devenu, comme on disait il n'y a pas si longtemps encore, un phénomène de société. C'est-à-dire que ça a pris des proportions absolument, notamment sur le plan économique, incroyable.
Je pense que le vrai problème, c'est qu'en France, le foot est devenu très populaire, mais que ça repose sur une culture du sport qui est complètement absente. C'est-à-dire que, par exemple, prenez les pays anglo-saxons, la culture du sport est forte et finalement le foot a toujours été à la même place, donc il déborde pas tant que ça. Aujourd'hui, nous, la popularité du foot repose sur l'absence d'une culture du sport, ce qui fait que on confond la culture du sport et la culture de la victoire. Et tout vient de 1998 et du coup, du point de référence est biaisé. Le sport, c'est pas forcément la victoire. D'ailleurs, l'écrivain anglais Nick Hornby disait que l'essence de la vie de supporter était la déception. Et ça serait bien de s'en souvenir de temps en temps.
D'ailleurs, il faut que je rappelle que vous avez aussi fait un livre superbe sur George Best, Grand joueur aussi, un joueur irlandais.
Un joueur nord-irlandais, flamboyant et autodestructeur, qui a été.
Celui qui disait, je crois, j'ai dépensé tout mon argent, j'ai dépensé tout mon argent dans les voitures, dans l'alcool et avec les femmes, et j'ai gaspillé le reste,
c'est ça? C'est ça, tout le reste je l'ai gaspillé.
Et c'est ça qui vous intéresse, en fait. C'est dans le football aussi, vous êtes un spécialiste, vous commentez les matchs, mais vous aimez bien aussi analyser le football comme phénomène.
Oui, moi, je peux parler du jeu toute la nuit, mais j'aime beaucoup le décor dans le livre sur George Best, le cinquième Beatles, qui m'intéressait, c'était longtemps en Angleterre, la musique et l'invention de la mini-jupe. Et sur 76, ce qui m'intéressait autant, c'était les rapports entre la ville et les grandes familles, les guichards de casino et les mimards de la manufacture. Et que tout le reste, oui, j'aime le décor, j'aime que c'est un sens global, en fait.
Ouais, ouais. Alors, parlons, pour conclure, de pronostics. Vous n'aimez pas ça, forcément. Qui va gagner cet euro?
Mais comme toujours, ceux qui s'autoproclament spécialistes sont toujours les plus nuls en pronostics. Je pense que l'Allemagne et l'Espagne sont les grands favoris. Ce sont les deux nations qui ont gagné les cinq derniers tournois majeurs. Et que l'équipe de France, parce qu'elle est organisatrice et que ça lui a permis de gagner l'Euro 84 et la Coupe du Monde 98, on va dire, est le principal favori du deuxième rang. Et je pense que la France peut le faire.
Merci Vincent Duluc, on en reparlera dans quelques semaines peut-être. Votre livre, qui aurait pu s'intituler aussi donc La comédie du pouvoir dans l'univers du football, s'intitule Au cœur des Bleus, les sélectionneurs de l'équipe de France racontent. Il est publié chez Stock et je le recommande, tout comme je recommande le livre précédent, Un printemps 76, toujours chez Stock. Merci Vincent Duluc.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Nous serons en compagnie du philosophe Yves Michaud qui vient d'écrire un livre choc contre la bienveillance. Selon lui, pour reprendre la formule célèbre, en politique, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.